Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois une personnalité très particulière parce qu'à plusieurs facettes, quelqu'un de bien connu des Genevois, Magali Orsini. Bonjour Magali.
Bonjour Viviane.
J'avais très envie depuis très longtemps de t'inviter. Et puis, je ne savais pas, la vie, tu sais, la vie est compliquée. On va, on vient et on ne s'est pas croisés. Et récemment, on s'est recroisés alors qu'on s'était connus à l'époque de Palexpo.
Exactement, exactement.
Alors, nos auditeurs vont te découvrir au cours de cette interview. Mais je dirais qu'avant tout, tu es une femme libre. Libre de préjugés, libre de tes choix. Et je sais que tu te décris comme pugnace. J'ai lu ça quelque part. Ça, c'est des qualités qui sont particulières aux Corses, car tu es Corse d'origine. J'ai longtemps cru que tu étais italienne, parce qu'il y a des Orsini italiens. Tu es d'où en Corse?
Alors, je suis d'origine corse par mon père. L'origine de la famille Orsini-Corse, c'est Belgodère. C'est un ravissant petit village de Balagne, entre Calvi et Île-Rousse.
Alors, il faut que tu expliques que la Balagne, c'est dans le nord.
Ah oui, la Balagne, c'est dans le nord, effectivement. Donc, Calvi, Île-Rousse, c'est juste avant le début du cap, en somme. Hein.
Voilà, voilà. Alors, tu sais, il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étais-tu?
Alors, j'étais une petite fille dans un océan de garçons. J'avais que des frères. Mais en plus du fait de n'avoir que des frères, je n'avais que des cousins, que des oncles. Enfin, c'est une famille, on a l'impression que les femmes ne servent qu'à reproduire la race mâle, en somme. Hein. Je veux dire qu'il y a vraiment un minimum de femmes. Et en plus, j'avais un père militaire, donc officier saint-cyrien, qui n'avait pas beaucoup d'imagination, donc qui m'a élevée absolument comme un garçon.
Alors, tu es née où d'abord?
Je suis née en Arles, pendant la guerre. Ma mère est provençale, donc elle s'était réfugiée. Et je pense que voilà, à l'occasion d'une permission, je fus conçue à une époque où effectivement tout n'était pas rose, même si c'était quand même le sud qui était
plus protégé,
tout
oui.
À fait.
Ouais. Oui. C'était la zone nono, voilà. Comme on l'appelait en France,
tout à
non
fait.
Occupée.
Non, et en plus dans une région assez fertile. Ma mère était originaire donc du Vaucluse. Où je ne pense pas qu'on soit mort de faim comme dans certains autres endroits, en fait.
Bien sûr. Et alors, tu es allée à l'école à quel endroit?
Alors, nous sommes partis au fin fond de l'Afrique par le premier paquebot qui a eu le droit de nous embarquer. Et nous sommes allés rejoindre mon père au fin fond du Gabon, dans un petit bled qui s'appelait Midzik, au fin fond de la forêt vierge, où nous étions les seuls blancs, d'ailleurs, à perte de vue. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ici, au conseil municipal du Grand Saconnet, j'ai retrouvé des amis noirs, qui, par exemple Eya, une chama, qui m'a dit « Mais Magali, où étais-tu au Gabon ?» Puis je lui ai dit « Écoute, Nia, ça ne sert à rien que je te parle de ce bled, personne ne connaît ça. » Il s'appelait Midzik, il m'a dit « Mais je connais Midzik !» Donc voilà,
et
des dizaines d'années plus tard. Alors l'école, bon, c'est toujours l'école, j'avais 4-5 ans, donc la question ne devait pas beaucoup se poser. Et puis par la suite, pour nos séjours africains, parce que c'était en général des séjours de 2 ans, et puis on revenait en France pour 2 autres années.
Alors tu veux dire, attends, pour qu'on comprenne bien, donc tu faisais 2 ans en Afrique, enfin ton père faisait,
voilà.
Qui était officier de l'armée française, 2 ans en Afrique, 2 ans sur le continent.
2 ans sur le continent, et là on le faisait généralement à Cannes, parce que ma grand-mère paternelle était devenue cannoise dans l'intervalle, donc on les faisait à Cannes, donc mes amis du collège classique de Cannes avaient l'habitude de me revoir tous les 2 ans. Donc.
D'accord, et toi tu repartais en Afrique, toujours au Sénégal ou dans
Non, je suis repartie à Cotonou ensuite. Et puis dans l'intervalle,
donc
Cotonou, c'était le Dahomey qui est devenu le Bénin.
Oui.
Mais là aussi, je veux dire, à l'époque, c'était une toute petite colonie française. Hein, il ne faut pas imaginer, il n'y avait pas de port à Cotonou. Il devait y avoir 2 ou 3 maisons en dur. C'est absolument méconnaissable. Puis là aussi, j'ai retrouvé ici des élus du Bénin qui m'ont dit « Mais ma mère m'a aussi parlé de l'époque où il n'y avait pas de port à Cotonou, il y avait un wharf. » Il y avait un wharf, et puis donc on nous prenait...
Un wharf, c'est-à-dire un quai, quoi. Un quai de déchargement.
Oui, c'était une espèce de quai. Et on avait des grues qui nous prenaient pour nous mettre dans des nacelles, dans des barcasses, qui franchissaient la barre, puis qui allaient nous mettre sur le pont des navires pour visiter nos amis qui étaient de passage. Voilà.
Tu étais heureuse, enfant, dans ces écoles
J'étais pas très heureuse à Cotonou parce que j'étais donc la seule blanche de ma classe chez des sœurs qui estimaient que n'étaient pas là pour les blancs. Elles étaient furieuses en fait de m'avoir.
D'accord.
Donc quand je disais, écoutez, est-ce qu'on peut baisser le store parce qu'il y a trop de soleil, elles me disaient, mais petite Magali, nous sommes ici pour les noirs. Si le soleil ne te convient pas, il faut rentrer en France. Donc, je ne peux pas dire que j'ai gardé un souvenir délicieux de ces personnes.
Ah, dis-moi, la charité chrétienne, là, elle était en berne. Et alors, quand tu étais à Cannes, tu étais beaucoup plus heureuse ou c'était
Et
pareil?
Quand j'étais à Cannes, j'étais...
Tu étais la petite africaine?
J'étais toujours très en avance parce que mon père nous faisait travailler comme des damnés. Donc, on arrivait chaque fois en France avec 2 ans d'avance et on s'ennuyait à mourir. J'avais le droit de dormir en classe, parce qu'en plus, il nous faisait travailler très tard le soir, donc j'avais le droit de dormir en classe. Et j'ai des souvenirs d'un prof de maths qui disait, ah, là, on patauge un peu, on va réveiller Orsini, vous voyez.
Ah oui, d'accord. C'était...
Donc, on me considérait comme un peu trop prétentieuse, ce que j'étais certainement. Mais malgré tout, avec un certain prestige, qu'est-ce que je pourrais dire? Et surtout, j'étais pas du tout féminine. Voilà, par rapport à toutes ces jeunes filles qui étudiaient leurs vêtements, etc. Moi, j'étais une vraie sauvagine, en fait.
Alors, on va écouter quelque chose que tu nous as choisi de Chimène Badi. Je viens du Sud.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Et par tous les chemins, j'y reviens.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Magali Orsini. Magali, on est en train de repasser un peu ton enfance à cheval, grâce à la carrière militaire d'un père officier de l'armée française, un peu en Afrique, un peu à Cannes, en alternance. Et tu nous as fait écouter une chanson qui commence par « J'ai dans le cœur quelque part une mélancolie ». Tu as cette mélancolie ?
Oh, disons qu'on a, je pense qu'on a tous. C'est vrai que quand j'arrive dans le sud, et je remarque que c'est en particulier, même sur l'autoroute, aux alentours de Salon de Provence, Arles, je commence à avoir des petits serrements de cœur. On dirait que là, il y a des ondes un peu particulières qui se manifestent. C'est vrai que la Provence, par exemple, c'est à la fois... c'est pas si riant, hein, c'est un côté toujours un peu dramatique.
Austère, la
Provence. Oui, c'est un peu sauvage. Hein, je veux dire, les traditions provençales sont pas si gaies. Mais voilà, je suis un peu étreinte. Moins à Cannes, parce que Cannes, ça s'est quand même beaucoup dévoyé. Je veux dire, c'est envahi par les touristes, ça ne me fait pas le même effet.
Alors, comment es-tu arrivée à continuer tes études, ta vie d'étudiante? Où est-ce que ça s'est passé? La suite, c'était quoi?
Nous sommes aussi dans l'intervalle aller en Allemagne, en représentation française. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on passait avec... On avait des transitions de douche écossaise, quoi. On passait d'une maison en terre battue avec les toilettes au fond du jardin dans les hautes herbes à une villa réquisitionnée au bord du lac de Constance avec trois domestiques. Donc, ça m'a donné un sens de la relativité qui fait que, voilà, je veux dire, je ne suis pas particulièrement impressionnée ni par les décors, ni par les mœurs. Je veux dire, j'ai un peu tout connu. Et dans ce contexte-là, il y avait toujours l'éducation donnée personnellement par mon père, en tout cas quand il était là, qui faisait passer les études avant toute chose. Quoi. L'école, c'était sacré, et la connaissance, c'était sacré, et c'était là où on mettait tout le paquet.
Alors, qu'est-ce que tu as fait comme études?
Ben, je parle de la scolarité normale, collège, etc.
Hein, et jusqu'au bac. Et après?
Alors, après, j'ai commencé ma petite révolte, parce que donc... Quand j'ai été bachelière à Paris, mon père a été nommé au Niger comme attaché militaire et j'ai refusé obstinément de suivre mes parents en disant « Écoutez, il n'y a aucune raison. D'accord, je suis mineure, mais je ne vois pas pourquoi je devrais vous suivre dans une ambassade complètement stérile et perdue alors que j'ai le droit de faire des études. » Bon, et mon père m'a dit « Je ne laisse pas une fille mineure toute seule à Paris parce qu'à l'époque, nous habitions Paris. » Donc, je m'étais faite pistonner par une amie pour avoir un poste de maîtresse d'internat, de pionne en fait. Et puis là, mon père a dû céder parce qu'il savait que j'étais enfermée la nuit,
Ah oui, parce qu'un père corse, les filles ne font pas, les folles, hein. J'en sais quelque chose.
Et malgré ce régime qui était somme toute assez dur, parce que je devais rentrer à midi, survivre le réfectoire, repartir en courant à la fac, etc. Et malgré tout ça, j'avais un sentiment de liberté extraordinaire. Je veux dire, brusquement, je découvrais la liberté. Quoi.
Alors, qu'est-ce que tu as étudié?
Alors, j'ai un peu tout étudié. J'ai commencé par vouloir faire médecine. J'ai passé un certificat, ce qu'on appelait physique, chimie, biologie, parce qu'à l'époque, c'était indispensable. Et toutes mes amies de classe me disaient, Magali, t'étais bonne en tout, sauf en sciences naturelles. C'est vraiment pour embêter ton père. Là, c'est vraiment pour contrarier. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait une première année de médecine et puis j'arrivais pas à suivre. Quoi. Je veux dire, système de travailler comme ça, d'être complètement toujours en train de courir. Et puis, de toute façon, j'ai commencé à m'intéresser. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai commencé à m'intéresser à la sociologie.
Sociologie en fac de droit, alors?
Non, j'ai fait de la sociologie à Nanterre qui venait d'ouvrir. J'ai fait aussi une année j'ai passé donc le certificat d'études littéraires générales, ça s'appelait propédeutique lettres à l'époque. Mon père voulait que je fasse Sciences Po et l'ENA, c'était ça. Bon. Si j'avais su que j'avais réussi propé lettres, j'aurais peut-être fait Sciences Po. Mais j'étais persuadée d'avoir raté. Dans l'intervalle, j'étais partie en Angleterre pour apprendre l'anglais et je suis rentrée d'Angleterre pour me présenter à ce certificat. Où il y avait trois épreuves, il y avait philo, histoire, anglais. Anglais, je n'avais pas trop de problèmes. Philo, histoire, je m'étais bien défoulée en me disant, je me suis bien défoulée. Mais je n'ai jamais imaginé que j'avais réussi ce certificat. Donc, j'ai croisé quelqu'un pendant l'été sur la croisette qui avait échoué. Puis j'ai dit, c'est pas
et
bien.
Et qui t'a félicité.
Et qui m'a dit, c'est facile à dire quand on a réussi. Et je lui ai dit, pardon. Et c'était trop tard. Et c'était trop tard pour s'inscrire à Sciences
Po.
Et
alors après?
Voilà, j'ai raté ma vie parce qu'avec le recul, je me dis, mon père avait raison, j'aurais dû faire Sciences Po.
Magali, tu n'as rien raté du tout, nous le savons tous à Genève. Mais alors, tu as continué une carrière
en France
après?
J'ai continué. Et puis, bon, chaque fois, je rencontrais plus ou moins une amie qui, au retour d'Angleterre, qui me proposait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, dans l'intervalle, oui, j'avais oublié ce détail très intéressant. J'étais un été à Cannes et je devais réviser de la chimie. J'ai une amie qui est passée me voir et ma mère lui a dit, elle est dans sa chambre, elle révise la chimie. Et cette amie m'a trouvée en train de faire de la couture. Et elle m'a dit, tu es lâche. Quand on aime la couture, on fait de la couture et on ne dit pas à ses parents qu'on fait de la chimie. Et j'ai dit, chiche, puisque c'est comme ça, je vais faire de la couture. Donc, je me suis inscrite à Paris, à l'école.
T'étais un peu rebelle, hein?
J'étais un petit peu rebelle sur les bords, oui. Donc... Je me suis inscrite à l'école de la chambre syndicale de la haute couture. Et j'ai passé une année à apprendre à faire des jolies robes, enfin des jolis projets. Je me suis aperçue que j'étais nulle, absolument nulle en dessin. Quand je voyais le talent, enfin cette école, elle drainait plein de futurs stylistes de premier ordre. C'était vraiment pas mon truc. Mais j'avais fait la connaissance de Flavie Révillon, qui était aussi dans ma classe et qui m'a dit « Mais viens travailler chez nous ». Je vais te présenter à ma mère, etc. Donc, voilà, j'avais été engagée chez Révillon comme adjointe à l'attaché de presse. Donc, j'ai fait les relations publiques de Révillon. Révillon Fourrure et Parfum pendant un an ou deux.
Non, c'est un peu loin de ce que tu vas nous faire écouter, là. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Gavroche, je pense. Hein, oui. Le petit titi parisien, absolument adorable. C'est pas si loin, hein, parce que je devais faire le tour de tous les parfumeurs parisiens pour vérifier qu'ils avaient des présentoirs en vitrine. Donc, j'ai vraiment eu une petite vie de globe-trotteur, là, ces années-là. Gavroche, c'est un individu que j'adore, ce titi chéri de Victor Hugo, voilà, qui disait, quand il était mal accueilli chez les commerçants, il disait « rentrons dehors ». Et ça, j'adore, rentrons dehors, j'adore.
On écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Et je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
C'est la faute à Rousseau. C'est pas de terre,
êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Magali Orsini, à qui je fais raconter sa vie d'enfant, sa vie de jeune fille. Alors Magali, tu es à Paris, on a vu que tu étais quand même assez rebelle, que tu partais un peu dans tous les sens, tu te retrouves chez Révillon. Explique-moi comment ensuite tu es arrivée à avoir un intérêt pour la politique, et même, je crois, plus qu'un intérêt.
Oui, alors si mes souvenirs sont exacts, j'ai quitté Révillon pour aller apprendre l'anglais, précisément. Et c'est au retour que, j'étais censée revenir chez Révillon, mais j'ai rencontré une amie qui dirigeait à l'époque un institut qui s'appelait le Comité de la Montre, qui vivait avec des taxes françaises pour favoriser l'exportation de montres françaises. On avait à l'époque Chevènement comme commissaire du gouvernement pour veiller sur ce comité. Et j'ai commencé, j'ai découvert Michel Rocard, à peu près à cette époque. Et Michel Rocard m'a tout de suite fasciné, voilà.
C'était un homme fascinant.
Voilà. Donc, j'ai adhéré au PSU à l'époque, qui était le parti de Michel Rocard, parce que j'ai toujours eu cette vision quand même, et qui m'a été inculquée par mon père, que tous les êtres humains méritent la plus totale considération, et puis que voilà... Les inégalités de chance, au départ, moi, je les ressens comme une injustice permanente. Et je trouve qu'on n'a pas favorisé le creusement des inégalités. Et ça, c'est quelque chose que je ressens encore maintenant, c'est tout. Donc, quand je suis anti-système capitaliste, c'est parce qu'il creuse les inégalités. Ce n'est pas une profession de foi comme ça en l'air. C'est parce que techniquement, je ne crois pas que... Il y a une main invisible du marché qui crée l'harmonie, voilà. C'est plutôt une question intellectuelle, en fait. Hein. Et Michel Rocard me convenait par son intelligence, par son esprit d'analyse. Il faut dire que c'est une époque où quand on milite dans un parti français, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'être élue ou même candidate, quoi. Je veux dire, j'étais la petite militante
de base
qui
la petite main, on appelait
voilà,
ça.
Voilà, qui colle les affiches, qui. Mais bien entendu, ça ne me serait même jamais venu à l'idée de risquer de me présenter à une élection.
Tu es restée à Paris jusqu'à quel âge ?
Je suis restée à Paris jusque vers 28 ans, par là. Donc, je me suis inscrite à l'université à la faculté de Nanterre, qui venait d'être créée. Donc, on avait des profs qui étaient.
Tu as eu Raymond Barre comme prof
non,
d'économie?
Non, j'ai pas eu Raymond Barre parce que je faisais pas beaucoup d'économie. On faisait de la psychologie sociale,
d'accord,
de la sociologie.
Oui.
Mais j'ai eu Alain Touraine qui était prodigieux, qui était merveilleux.
Tu as eu Maurice Duverger?
Non, je n'ai pas eu.
Non,
mais parce qu'on n'avait pas trop de cours de droit. Hein. Duverger, c'est un juriste. On avait essentiellement de la sociologie, de la psychologie sociale, d'accord, de la psychologie. Mais c'était fascinant. Hein. Touraine me mettait des bonnes notes alors que je faisais ce que je pouvais pour assister aux cours, toujours en train de courir. Mais je me souviens, là aussi, avoir improvisé totalement un devoir d'examen qui s'appelait « Qu'est-ce que la professionnalisation ?» Ça ne faisait aucune référence à son cours, rien du tout. Il m'avait mis une note excellente, donc voilà.
Ah, déjà créative.
Non, mais c'est ça, exactement. C'était.
Et alors, comment es-tu arrivée en Suisse?
Alors, je suis arrivée en Suisse parce que parallèlement, j'avais un job. Alors, à l'époque de Touraine, j'avais un job vraiment sans intérêt. J'avais un job de secrétaire dans un laboratoire de banlieue à Montrouge. C'était vraiment gagne-pain. J'étais un peu amoureuse de mon patron, qui était un beau jeune homme suisse, grand, aux yeux bleus, etc.
Oh.
Donc, qui m'amenait manger de la viande rouge quand je disais que j'étais un peu...
T'étais végane avant l'heure ?
Un peu déprimée, voilà.
Ah non.
Mais tout ça, il est parti, ce patron. Et moi-même, je me suis dit, oui, il faut que je quitte ce boulot. Et c'est le boulot qui compte avant toute chose. Donc, j'ai répondu à une annonce pour un job à Genève. Et je me suis dit, tiens, Genève, pourquoi pas?
Il y a peut-être d'autres gars beaux aux yeux bleus.
Et en plus, c'était un job pour revenir en France, pour créer des bureaux en France. Donc, je me disais, c'est une période de formation à Genève pour créer des bureaux en France. Voilà. Alors, à l'époque, mon frère était en Argentine, mes parents étaient en Afrique. Je veux dire, j'étais seul, je n'avais aucune raison. Alors, j'ai un peu tout liquidé à Paris. J'avais un studio à Paris que j'ai loué. Et puis, je suis venu à Genève un beau matin. Et là, j'ai un peu déchanté parce qu'on ne m'avait pas dit qu'il fallait que je sois frontalière, qu'il fallait que j'habite Annemasse. C'était un peu...
On ne t'a pas dit qu'il y en avait qui avaient les yeux noirs aussi.
Donc, je me suis sentie un peu flouée sur le moment. Non, l'arrivée a été un peu sinistre, là, parce que vraiment...
Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme métier, là, à Genève?
Alors, voilà, ce qui m'intéressait, si j'avais répondu à cette annonce, c'est parce que c'était un cabinet conseil en propriété industrielle. Et j'avais compris dans ce laboratoire pharmaceutique que la propriété intellectuelle, les brevets, c'était l'aspect intéressant de la chose. Vous voyez bien que c'était ça qui comptait, c'était vraiment les marques, les brevets. C'était quelque chose qui m'intéressait, a priori. Et puis là, ces 3 mois de stage ne m'ont pas convaincue. Et de toute façon, ce patron s'est suicidé. Ça a été une histoire locale à l'époque. Sa boîte allait très mal. Il avait beaucoup menti. Mais j'étais là. J'avais tout liquidé à Paris. Et je me suis aperçue que le marché du travail était quand même en or à l'époque. Faut quand même dire qu'on vous suppliait, on vous envoyait un taxi. Je me souviens, Firmenich, il me disait... Oh, venez quand même vous présenter. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais venez quand même, on vous envoie un taxi. Donc, c'est assez inimaginable maintenant des histoires pareilles. Mais c'était comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, allez, maintenant, tu as assez rigolé. Tu dois faire des études de A à Z absolument. Ça suffit comme ça. Tu ne vas pas rester secrétaire sans diplôme universitaire. Ça ne te ressemble pas. Bon. Donc, il faut que tu trouves un employeur qui comprenne ça. Et j'ai fait un peu le tour. Et j'ai dit, voilà, moi, je veux quand même un horaire un peu particulier. J'ai besoin de gagner ma vie. Mes parents m'ont dit tu veux être libre, ben sois libre depuis longtemps. Mais j'ai besoin de gagner ma vie, mais je veux pouvoir faire des études supérieures.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Alors, on écoute une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Porteuse d'eau, qui est une des premières chansons d'Anne Sylvestre que j'allais écouter avec délice sur la place de la Contrescarpe. Ça s'appelait l'Écluse, je crois, ce bistrot. Et je découvrais Anne Sylvestre, entre autres choses, parce que beaucoup de grands chanteurs français sont passés par là. Et c'est Anne Sylvestre qui chante encore maintenant, qui écrit encore des chansons maintenant. Je l'adore toujours autant. J'adore cette sensibilité. Je trouve qu'elle dépeint exactement et très souvent tout ce que j'ai pu ressentir.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
La terre colle à mes sabots, ne saurait m'en défaire. Le ciel me pèse sur le dos, j'ai pleuré les rivières. J'ai sangloté tant de ruisseaux, mes doigts sont rivés à mon seau. Porteuse d'eau pour ma vie tout entière. La 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 la. Je suis taillée de dense bois qui en manche les bêches, celui duquel on fait les croix, parfois aussi les flèches. J'ai les semailles au fond de moi et les vendanges au bout des doigts. Et dans ma voix, le chant des herbes sèches. La 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 la. Ma seule chaîne est celle d'un puits, j'ai l'âge des fontaines, l'humeur du temps qui change et fuit, la patience des graines. 4 saisons filant sans bruit, le jour et puis un jour la nuit, la mort et puis que la terre me prenne. La 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 la.
Vous êtes sur Radio Cité Genève dans la bouteille à moitié pleine avec Magali Orsini. Magali, on a vu tes parcours parisiens, on a vu que tu es arrivé à Genève un peu avec dans l'idée qu'il y avait des beaux gars qui avaient les yeux bleus, mais que tu t'es mis à travailler en frontalière, que tu as fait pas mal de choses là aussi. Et ton engagement politique, ça a été tout de suite à Genève ou ça a été différé? Raconte-moi tout ça.
Alors, moi, je voulais continuer. J'étais membre du PSU de Rocard. Donc, je me suis dit, tiens, la politique, non. De toute façon, je vais... Alors, j'ai commencé. Donc, je me suis inscrite à l'Université de Genève. C'était compliqué parce que on m'a dit, non, travailler à temps complet, chez nous, c'est non. Bon, et puis, il y avait un patron à l'époque qui connaissait le recteur qui a dit, mais écoutez, elle n'est pas à la recherche d'un permis. Elle l'a déjà, le permis. Elle veut vraiment faire des études en travaillant. Bon, alors, on lui donne une chance sous réserve des résultats de fin d'année. Donc, voilà, j'ai eu des résultats très corrects à la fin de l'année. Et puis, j'ai pu faire cette licence. Je me suis un peu dévouée en disant, cette fois, je vais faire quelque chose d'alimentaire. J'ai fait une licence, à l'époque, qui s'appelait sciences commerciales et industrielles, qui est l'équivalent, qui est devenu HEC maintenant. Et puis, voilà, j'ai appris la comptabilité, j'ai appris la fiscalité, etc. J'ai vraiment eu l'impression de me dévouer en disant, j'ai un patron qui m'offre la possibilité de faire ça, je vais faire quelque chose d'utile pour l'entreprise. Mais a priori, évidemment, que c'est pas ça qui m'aurait le plus enchanté. J'adorais la sociologie, j'adorais l'histoire. Mais finalement, cette licence, elle m'a permis de gagner ma vie. Ce côté alimentaire a été résolu comme ça.
Est-ce que tu as monté ton entreprise ?
Oh, récemment, il y a une quinzaine d'années, mais disons, j'ai longtemps
D'accord.
été salarié.
Donc à l'époque, tu as travaillé pour un patron.
Voilà, et puis j'ai longtemps été salarié dans divers secteurs. J'ai même travaillé 7 ans à l'État de Genève. Donc cette partie-là, elle a été réglée par ma formation universitaire. Ça me permettait de travailler normalement à des postes de cadre. Et comme ça, l'incident a été clos de ce côté-là.
Et ton engagement politique
à Genève?
Et côté
politique, voilà. On m'avait dit, vous n'êtes pas suisse, méfiez-vous, c'est interdit de faire de la politique sur le territoire suisse. On m'avait un peu terrorisé. Donc, j'en faisais en France voisine. Et à l'époque, c'était l'époque de choisir. On militait pour l'avortement libre et gratuit. Donc, voilà, on était toute une équipe à Ferney-Voltaire. On faisait venir les femmes françaises à la maternité pour les faire avorter, on fournissait les cautions. J'étais assez occupée sur ce plan-là. Et puis quand la loi Veil, je me souviens, j'étais à Cannes à ce moment-là, aux surprises, Giscard a donné l'ordre à Simone Veil à l'époque de sortir un projet de loi. Et l'affaire a été réglée comme ça. Et aussi professionnellement, je travaillais dans une boîte américaine, je travaillais à divers endroits.
Pourquoi tu bougeais comme ça? Tu avais envie de faire beaucoup d'expériences?
Je bougeais comme ça parce que soit je m'ennuyais, soit il y avait des nouveautés. Bon, dans le cadre de ce patron-là, l'affaire avait été vendue. Donc, avec des gens qui voulaient de nouvelles personnes. Oui, dans l'intervalle, j'avais dit, je ne laisse pas passer le cap de 40 ans sans enfant. Donc, je m'étais payé le luxe d'être enceinte, célibataire. Je me souviens que j'ai accouché à l'hôpital de la Tour. Je recevais des gerbes de fleurs d'inconnus parce que j'avais mis une annonce à la tribune. Magali Orsini est heureuse de vous faire part de la naissance de son fils. Point. Et à l'époque, cette annonce avait fait un scandale, soit dans le bon sens. Parce qu'il y a toutes les femmes du MLF qui me disaient « ça, c'est un acte politique, pas de nom de père, rien du tout ». Et puis, je recevais des téléphones d'insultes en me disant « mais vous n'êtes même pas capable de dire qui vous a engrossé, quelque chose d'inouï ». Je veux dire, la mentalité à l'époque, il faut se rendre compte. Hein. J'étais membre du MLF, bien entendu, ça va sans dire. J'étais membre du MLF, on faisait des groupes de conscience féministes, etc. Mais on me disait toujours « tu es l'avocate des hommes ». Parce que quand les femmes exagéraient en disant « tous les hommes sont maudits », etc., et encore maintenant, je reste l'avocate des hommes.
Ça, tu as raison.
Que ce soit bien clair.
Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, Magali?
Absolument. Et puis en plus, je persiste à dire qu'on a des différences sérieuses entre nous, même si j'ai peut-être une formation, comme je l'ai dit, très, très masculine, très virile, etc. Bon, ben, biologiquement parlant, je suis désolée.
Une femme.
Il me semble qu'on a quand même des
Tu as différences. Eu une fille ou un garçon?
J'ai un garçon qui a maintenant quand même un âge avancé, et deux petits-enfants, qui sont des garçons, bien entendu, ça va sans dire, et que j'adore, bien entendu, aussi. Voilà.
L'art d'être grand-mère.
Exact.
Alors, revenons.
Donc, je militais dans le Pays de Gex, et puis je suis rentrée
dans le Pays de Gex, donc...
d'accord. Je militais en France voisine pour ne pas militer sur le territoire genevois.
Je comprends.
Donc, j'étais membre du PSU en France voisine, une section du PSU français en France voisine. Et j'ai répondu une annonce à l'État de Genève, au DIP, en me disant que j'ai aucune chance d'être prise administratrice des cycles d'orientation pour les 17 collèges, alors que je ne connaissais personne, que j'étais française. Eh bien, au miracle, j'ai été prise, n'est-ce pas ? Donc, j'avais un enfant qui devait avoir 3-4 ans à l'époque. Je m'étais dit, tiens, le DIP, ça va être sympa. J'y suis restée 7 ans. Je ne vous cache pas que je n'ai pas eu les meilleurs rapports avec mon directeur général.
Pourquoi ?
Pendant ces années-là. Parce que on m'avait prévenu, on m'avait dit, c'est un peu un héros de l'Europe de l'Est. C'était à la suite de Chavannes. Il y avait une réaction de droite. J'ai dit, bon, ça suffit. On les a laissés faire, ce cycle d'orientation, c'est de la folie, c'est complètement dispendieux. Donc, on venait de mettre un nouveau directeur général qui était un peu...
Qui serrait la vis.
Qui était serré la vis et qui était plutôt de droite, pour employer un euphémisme.
Tu sais que ce que tu as choisi va à peu près correspondre parce que tu as choisi de nous faire écouter Jacques Brel, L'art de la bêtise. C'est drôle.
Oui, c'est très drôle.
On écoute.
Radio Cité Genève.
La bouteille à moitié pleine.
Extrait du célèbre opéra La vie quotidienne. Voici l'air fameux entre tous, l'air de la bêtise. Salut à toi, dame bêtise, toi dont le règne est méconnu. Salut à toi, dame bêtise, mais dis-le-moi, comment fais-tu pour avoir tant d'amants et tant de fiancés, tant de représentants et tant de prisonniers. Pour tisser de tes mains tant de malentendus et faire croire aux crétins que nous sommes vaincus. Pour fleurir notre vie de basses révérences, de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies, de noble intolérance. Mère de nos femmes fatales, mère des mariages de raison, mère des filles à succursales, princesse pâle du vison. Salut à toi, dame bêtise, toi dont le règne est méconnu. Salut à toi, dame bêtise, mais dis-le-moi, comment fais-tu pour que point l'on ne voit le sourire entendu qui fera de vous et moi de très nobles cocus. Pour nous faire oublier que les putains, les vrais, sont celles qui font payer, pas avant mais après. Pour heureux qu'il puisse m'arriver de croiser certains soirs ton regard familier au fond de mon miroir. Ton regard familier au fond de mon miroir. Ton regard familier au fond de mon miroir.
Vous êtes sur Radio Cité Genève dans La Bouteille à moitié pleine avec Magali Orsini. Magali, dont on a vu qu'elle n'était pas un paradoxe près, parce qu'engagée à gauche, en France, dans le mouvement de Michel Rocard, le PSU, arrivant à Genève. C'est assez paradoxal, on est d'accord, parce que Genève, ce n'est pas forcément la ville de la gauche, quoique.
Quoique, il y avait un maire communiste qui s'appelait M. Daflon, et puis quand je racontais en France que Genève avait un maire communiste, personne ne voulait me croire.
Encore maintenant, quand on raconte en France que les conseillers d'État sont en grande majorité à gauche, personne ne le croit.
Oui, et alors en ville de
Genève.
Ce
sont les paradoxes de Genève. Alors, les engagements.
Alors, tout cela pour dire que je venais d'être engagée à l'État de Genève, quand même un poste de cadre qui faisait beaucoup, beaucoup d'envieux et de jaloux. D'ailleurs, j'avais des collaborateurs, je devais en avoir 5 directs, il y en a 2 qui sont venus me trouver en me disant qu'ils n'accepteraient jamais d'être sous les ordres d'une femme. Il faut imaginer que, vraiment, à l'époque, les femmes avaient vraiment pas du tout la situation qu'elles ont actuellement. Il faut voir le chemin parcouru depuis ce moment-là. La mère de famille idéale ne travaillait pas, elle était à la sortie de l'école à 11h30. Donc déjà, le fait de travailler, ça excluait ce genre de sport. Donc moi, j'avais un petit qui allait ensuite chez les sœurs le soir, en attendant que je rentre, etc. Et puis, on m'a fait comprendre, on m'a dit, vous comprenez, quand même, une Française, vous avez un engagement moral à demander la nationalité suisse. J'ai dit, ok, bon, je comprends très bien, pourquoi pas. Donc, j'ai demandé la nationalité suisse, mais on m'a fait perdre la française parce que j'étais célibataire. Et c'était comme ça, je passe les détails. Donc, je me suis retrouvée suisse, en ayant perdu la nationalité française, avec un petit enfant français, parce qu'il n'était pas inclus dans la naturalisation, qui, lui, n'était que français. Donc, on passait les frontières avec 2 passeports différents. Enfin, c'était comme ça, c'était la situation à l'époque. Alors, pour ce qui concerne la politique, c'est vrai qu'assez rapidement, dès que j'ai été suisse, j'ai rencontré des socialistes. Je me souviens, Dominique Hauser, qui m'ont dit « mais viens au Parti Socialiste ». Dominique Hauser m'a tout de suite proposé de venir au comité directeur, en banque de femmes, etc. Donc, je suis arrivé au comité directeur du Parti Socialiste Genevois. Et à l'époque, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup sourire, mais j'étais très timide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je me taisais, j'écoutais, etc. Et au bout d'un certain nombre d'années, quand Laurence Feldman-Riel a pris la présidence, elle m'a proposé d'être une de ses vice-présidentes. Moi, j'étais très étonnée, mais bon, j'ai accepté. Donc, c'était une période. Et j'avais toujours dit, je ne veux pas faire de politique en ville de Genève, mais j'en ferai volontiers dans une commune, parce que ça me paraissait plus humain, plus facile, etc. Donc, je me suis présenté au conseil municipal du Grand Saconnet, où j'ai été élue dans une petite équipe de 2-3 personnes. Et là, je me suis heurté assez rapidement à un personnage que je ne citerai pas, mais que j'ai mis en scène dans un polar qui a un peu fait rire toute la République, que je me ferai un plaisir de vous offrir.
Le titre s'appelle
Euphrosyne s'en va au diable, ça s'appelle.
Euphrosyne
s'en va au diable. Et à l'époque, j'avais eu droit à toute une page dans la tribune, etc. Et cette personne a tout fait en me disant « tu vas être viré de la section, etc. » Laurence Feldman m'a dit, mais viens en ville de Genève, on va faire une exception pour toi. Et je lui ai dit, il n'y a rien à faire, ben, je suis au Grand Saconnet, je n'ai aucune raison. Je préfère quitter le parti. D'autant plus que Grobet, à l'époque, l'avait quitté aussi. Je me suis dit, il y avait aussi Mélenchon qui pointait sa tête à l'horizon. Je me suis dit, c'est vrai que les socialistes me paraissent quand même glisser un peu trop vers la droite, je dirais, pour être au sens large. Ça me convenait assez d'imaginer que je restais un peu plus à gauche du Parti socialiste. Donc, je suis partie chez les indépendants de gauche de Grobet en même temps que je découvrais Mélenchon. Je découvrais Mélenchon, j'avais lu son livre qui s'appelait « Enquête de gauche » où il disait le couple royal Hollande est en train de faire glisser ce parti vers la droite. Donc voilà, j'ai pris le premier TGV, premier bus qui allait en banlieue, au premier congrès fondateur des partis de gauche de Mélenchon. Et je me suis dit, ce type me plaît beaucoup. Il disait surtout des choses qui sont encore d'actualité maintenant, à savoir que la Banque Centrale Européenne devait prêter aux États et pas aux banques commerciales. Et en venant encore maintenant, je me suis encore énervée en entendant qu'on remet encore ça en question et que c'est à nouveau les banques commerciales qui prêtent aux entreprises, etc.
J'aime bien quand tu t'énerves, Magali.
Il faut absolument que ce soit les banques centrales, y compris en Suisse, qui, dans cette période de crise, débloquent leurs réserves de crise et pas les banques commerciales à qui on doit rembourser. Les seules qui peuvent faire de la dette souveraine sans problème, ce sont les banques centrales. Et c'est ce qui m'a plu dans le programme de Mélenchon. C'est son programme économique. Bon,
il te plaît toujours aujourd'hui?
Non, il ne me plaît plus depuis qu'il a défilé avec les islamo-gauchistes et qu'il lui-même s'est révélé être un islamo-gauchiste. La grosse différence entre Besançon et Mélenchon, c'était ça. Il avait un être merveilleux dans ses rangs qui était Pénard-Ruiz, qui a écrit un bouquin magnifique sur la laïcité. Il a laissé siffler Pénard-Ruiz, il a trahi la cause de la laïcité. Pour moi, c'est impardonnable.
Exit Mélenchon. Alors,
À Genève, j'ai donc rejoint le parti de gauche.
J'ai donc rejoint les
indépendants de gauche de Grobet, qui est, au fond, quand se sont présentées les élections pour le Grand Conseil, on a essayé une fois de plus de faire une unité avec toute la gauche radicale pour avoir ce fameux quorum de 7% qui est nécessaire pour être élu. Et grâce à cela, j'ai été élu. Mais bon, rapidement, comme chaque fois qu'on fait une pure alliance électorale, eh ben, on se heurte à des égos invraisemblables de la part des trotskistes.
Alors, tu as quitté un parti et tu en as créé un autre.
J'ai quitté un parti pour en rejoindre un autre.
Voilà.
Les indépendants de gauche, c'était le parti de Grobet, en fait.
D'accord.
Qui lui-même avait quitté le Parti socialiste.
Mais quand il y avait Ensemble à gauche, qu'est-ce que c'est Ensemble à
gauche?
Alors,
Ensemble à gauche, c'est une alliance électorale de 7 partis. Et effectivement, moi, j'ai repris un tout petit parti qui s'appelait La Gauche, qui se voulait au départ fédérer tout ça, puis qui, une fois de plus, a renoncé en disant, bon, même si on est peu, au moins on sera originaux. Et grosse différence entre eux et nous, moi, je n'ai jamais été communiste de ma vie. Je suis beaucoup trop indépendante pour ça, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas être au Parti du Travail, je ne peux pas être trotskiste, je ne peux pas être chez Solidarité, ce n'est pas possible. Ils sont complètement islamo-gauchistes aussi, entre autres choses. Donc, il faut réserver quelque chose pour une gauche radicale, mais républicaine. Moi, je reste profondément républicaine en matière de rôle de l'État, en matière de laïcité. Et je ne suis pas comme les trotskistes, je ne suis pas contre l'armée, je ne suis pas pour l'abolition des frontières. Je dis, dans l'état actuel des choses, on respecte quand même les ordres juridiques nationaux. Hein. Je suis franco-suisse, d'accord, mais enfin, quand je suis né le Suisse, je défends le droit suisse et l'application du droit suisse.
Magali, voilà. Tu as défendu aussi un personnage qui a été très décrié, Pierre Maudet, alors qu'il n'était pas du tout de ton bord. Et je trouvais que c'était formidable, c'était vraiment la marque d'un esprit libre.
Alors, tout à fait. Je dois dire que j'ai trouvé cette cabale absolument ignoble par rapport à une faute vénielle qui a été faite au départ. Je trouvais que cette campagne de presse et cette façon... Cette chasse à l'homme est absolument ignoble. Et ce que je constate encore maintenant, c'est la différence de compétence, et ça je le reconnais, entre quelqu'un comme Pierre Maudet et certains autres. Il n'y a pas de doute que c'est le seul qui comprenne quelque chose. Et quand on discute en particulier dans l'avenir du numérique, etc., c'est le seul qui comprenne quelque chose. C'est le seul qui s'intéresse vraiment à l'économie. Alors, moi, j'ai une fiduciaire. On me dit que c'est une fiduciaire bolchevique, je veux bien. Parce que
Exaplan.
Voilà.
Je te fais un peu de publicité au passage.
J'ai une fiduciaire qui s'appelle Exaplan. Dans l'intervalle, bon, j'ai refait des études pour l'expertise comptable. Disons que c'est clair que je connais la vie des entreprises, que j'en vis, donc je ne crache pas dans la soupe. C'est clair que je pousse les gens à payer leurs impôts, à respecter la loi. Hein, je ne supporte pas la moindre combine. Mais ceci mis à part, je ne suis quand même pas pour la mort des entreprises. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Je voudrais qu'il y ait un peu plus d'économie réelle et un peu moins d'économie de services complètement évanescents et puis voilà, de blanchiment d'argent sous couvert de de différentes activités qui ne sont pas toutes très saines.
Magali, je l'ai dit au début de cette interview, parce qu'hélas, on arrive à la fin. Tu es un esprit libre, libre de préjugés, libre de tes choix. Je t'aime beaucoup pour ça. C'est peut-être le côté corse aussi. Et puis, j'ai bien aimé parce qu'aujourd'hui, tu as partagé une phrase. « Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. » Et c'est Paul Cézanne, le grand peintre, pas son fils, qui s'appelait aussi Paul. Bravo pour ça aussi. Merci d'avoir partagé ça sur Facebook.
Et c'était un plaisir.
Et puis j'espère qu'on recommencera, parce que je suis sûre qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Et qu'est-ce qu'on écoute maintenant, avant de se quitter?
On écoute une chanson interprétée par Juliette Gréco, qui s'appelle « Ces gens-là ».
Et puis ensuite, on va se quitter. Magali, merci beaucoup. Et on remercie aussi Jackie Elzesser qui nous a enregistrés. Alors on écoute Juliette Gréco.
Sur les bras de ceux qui vont de petit boulot en petit boulot, jusqu'au bout de leur petit bonhomme de chemin dans la vie, il y a les pouces au fric, pouces au crime et pouces au cul. N'importe si tu fais tilt, ton problème, on s'assoit dessus. Tous ces gens-là sont bien gentils, il faut de tout pour refaire un monde. Supprime les gros, y a plus de petits. Supprime Vinci, y a plus de Joconde. Sur les bras de ceux qui vont de petit bonheur en petit bonheur, jardiner leur grand amour jusqu'au bout de leur ligne de cœur, il y a ceux qui forniquent, as de cœur contre as de pique, ceux qui ont l'air d'être entiers et ne le sont qu'à moitié. Tous ces gens-là sont bien gentils, il faut de tout pour faire un monde. Y a des Raymond qui font des petits et d'autres qui se prennent pour Raymond. Sur les bras de ceux qui vont de petites chansons en petites chansons, planter leur petit diapason jusqu'au bout de l'horizon, il y a ceux qui constatent, apprécient et poncent Pilate et se demandent si ma chanson c'est de l'art ou du cochon. Tous ces gens-là sont bien gentils, il faut de tout pour refaire un monde. Des qui chantent et des qui éditent des idées et des édits. Barclay, qu'on me change en statue avec de la mousse par-dessus. Si je ne sais pas que mes petites cantates, c'est pas de l'art, c'est de la chanson.